reprendrait bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, c'est fiction. THX 1138.
Société Nouvelle de Robotique. Fondée en 1974, la SNR, Société Nouvelle de Robotique, est présente sur tous les mondes connus et à toutes les époques pour vous apporter son expertise en matière robotique. Notre domaine de compétence va de la conception et fabrication de robots avec ou sans intelligence artificielle à la récupération de modèles robotiques complexes en symbiose avec leurs zones d'opération. Nous sommes également habilités dans la contre-mesure active de haute intensité pour vous aider à gérer les interactions inopinées et poussées que vous pourriez rencontrer avec matériel robotique autonome. Notre réputation dans le domaine du traçage logiciel, spatial et historique n'est plus à faire. Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos clients afin de leur éviter une trop grande gêne dans leur parcours entrepreneurial robotique. Notre savoir-faire vous permettra d'anticiper et, si le besoin s'en fait sentir, de pallier à toute déconvenue. Nous serions très flattés de vous compter parmi nos clients et d'entreprendre un partenariat prolifique pour tous.
Bon, il est passé encore. Ah, tout là. Non, bouge pas. Et merde. Je t'en foutrais, moi, d'un robot introverti. Avant de vous parler de THX 1138, il faut que je vous raconte l'histoire du professeur Roman. Le professeur Roman va naître le 20 mars 2172 à Nitra, dans la Slovaquie de votre époque. D'extraction aristocratique, Josip Roman a une jeunesse des plus calmes et heureuses. Le charme rassurant de la banalité, comme on dit. Parcours scolaire sans faute, ses différents professeurs décriront un élève au fort potentiel, mais totalement effacé. Pas, ou alors peu d'amis, une vie sociale proche du néant, sans qu'il ne fasse part d'un quelconque ressenti à ce sujet. C'est un solitaire, et cela lui va. Pour ses études supérieures, il se tourne sur les conseils de ses professeurs vers un parcours scientifique. Et là, pareil, de très bons résultats, mais aucune implication émotionnelle. C'est à la faveur d'un dîner avec ses parents et un vieil ami de son père que la transformation va s'opérer. En l'espace d'une soirée, les parents de Josip vont découvrir un tout autre jeune homme. La cause de ce changement, le vieil ami du père, le vicomte de la Malventrée. Un touche-à-tout de génie, mais aussi un aventurier. Sa fortune lui a permis de fonder une société de construction de vaisseaux spatiaux personnels. Marché de niche, certes, mais très lucratif. L'exploration spatiale récréative est, à cette époque, la nouvelle lubie du Gotha mondain. La mue du jeune homme sera quasiment physique au cours des quelques heures que durera le dîner. C'est à l'écoute des divers récits, tant les voyages que la jeunesse technique de l'entreprise du Vicomte, que Josip a comme une révélation. Il a trouvé un sens à sa vie, comme il dira plus tard. C'est un choc. Lui qui ne voyait rien de réellement attrayant pour lui dans le futur, le voilà au devant d'un monde à explorer, à déchiffrer, à jalonner. Le voilà qui se voit comme l'architecte d'un nouvel univers. De jeune homme renfermé et inconsistant en début de soirée, le voilà devenu un homme volubile et charismatique à la fin du repas. À tel point que ses parents devront l'ordonner de se taire au départ du vicomte, tant il était en proie à une logorrhée quasi inextinguible. Son retour à l'université la semaine suivante marquera les esprits tant il avait changé, tant psychologiquement que physiquement. Bon, sa vie sociale ne changera pas, Mais les enseignants se demanderont si ce n'est pas un jumeau qui a pris sa place, tant il va se mettre à animer les cours. Et c'est tout logiquement qu'à la fin de ses études, il rejoindra le vicomte de la Malventrée au sein de son entreprise. C'est ainsi que démarra l'expansion de la société Saint-Christophe, leader dans la conception et la fabrication de vaisseaux de luxe. Leur collaboration va faire des étincelles. Le vicomte se charge de la partie commerciale et Josip, bien à l'abri dans son bureau, conçoit les vaisseaux. Ce qui va parfois causer de petits accrochages. Le jeune homme refusant catégoriquement de rencontrer les clients désireux de voir le génie qui exauce leurs moindres désirs quant à la conception de leur embarcation. Des personnes aussi importantes et aussi généreuses, si vous connaissiez le prix d'un vaisseau, en général, on ne leur dit pas non. Et tout aussi asocial que puisse être Josip, on se plie aux souhaits, pour ne pas dire aux ordres, de ce genre de client. Mais le bagout du vicomte permettra de faire passer la pilule. Il en jouera même, en fondant une légende autour du mystérieux génie qui accomplit des exploits d'ingénierie spatiale. Une partie de l'aura de l'entreprise viendra de cette histoire montée de toutes pièces, mais qui plaira beaucoup aux clients. Ils adorent quand on leur raconte une belle histoire. Bon an, mal an, la société Saint-Christophe va se développer et se fonder une jolie réputation dans le domaine. Josip, au fourneau, a dirigé son équipe d'une main de fer et le vicomte, Isidore de son prénom, au contact du public. Une rumeur a circulé un temps, comme quoi Isidore aurait recours à un comédien pour le faire passer pour Josip et le présenter à quelques clients triés sur le volet. Histoire de les flatter un peu et faciliter la signature d'un contrat. Ah, l'ego des humains. Mais bon, tout ceci ne serait que des racontaires de concurrents frustrés. Nous voilà en 2214, les projets se succèdent et tout va pour le mieux. Josip vient d'inventer un nouveau système de propulsion, le flux subductif variable. Ne me demandez pas comment ça marche, seul Josip Roman le sait. Et le secret est bien gardé, croyez-moi. Isidore a vendu l'invention et veut l'utiliser dans son vaisseau personnel, le Vagabond Cosmique. Ce vaisseau, c'est sa danseuse, l'objet de toutes ses attentions, prunelle de ses yeux. Il va donc demander à Josip d'installer le nouveau moteur dans le Vagabond. Mais créer un propulseur inédit, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ça, le vicomte ne veut pas l'entendre. Il est plutôt impulsif, le vicomte. Et ça va commencer à générer des tensions dans le duo. Josip va régulièrement envoyer bouler Isidore. La complicité forgée au fil des ans commence à se fissurer. Certes, au fil des ans, il y a eu des anicroches. Normal, dans toute entreprise commune. Parfois, les clients étaient pressés, mais le vicomte savait encaisser la pression pour ne pas la transmettre à son associé. Dans le cas présent, il s'agissait d'un projet personnel et dès qu'on évoquait le Vagabond Cosmique, le vicomte avait tendance à redevenir un enfant gâté. Et, à force de supplications, de flatteries, voire même de menaces, le moteur à flux subductif variable est enfin prêt. Un grand renfort de publicité, Isidore annonce la première croisière de son Vagabond équipée du moteur révolutionnaire. Le 30 août 2216, le vaisseau se détache du chantier spatial Saint-Christophe et part vers Mars, qu'il rejoindra en 15 heures. Visiblement, l'invention de Josip fonctionne à merveille. Ce dernier observe la progression du vaisseau depuis son bureau. Les rapports entre lui et le vicomte sont toujours un peu tendus et il a aimablement refusé l'invitation à participer à la croisière inaugurale. Outre le fait qu'il soit devenu de plus en plus insociable, on lui prête des intentions, moins charitables. Le Vagabond Cosmique, une fois passé Mars, va faire fonctionner son moteur à pleine puissance et filer comme une flèche à travers le système solaire. Un léger problème va se déclarer après le passage de Mars. Les communications vont couper sans prévenir. Un problème d'interférence, probablement. Normal, sur un vol inaugural, il y a toujours des dysfonctionnements. Étonnant tout de même. Le vol d'essai en automatique n'avait pas révélé ce problème. Bref, Pas de souci, on aura le fin mot de l'histoire quand le vaisseau ralentira au large de Pluton dans 48 heures. Sauf que la station d'observation en orbite plutonienne ne recevra aucun message et verra le vaisseau chromé la dépasser allègrement sans même faire mine de ralentir. À cette époque, il n'y aura pas beaucoup de missions d'exploration en dehors du système solaire. Il y en aura eu deux, Viking 4 et 5. Elles seront déroutées pour intercepter la trajectoire du vagabond. Peine perdue. L'engin acquit une telle vitesse que seul Viking 5, la plus éloignée du système, pourra prendre quelques photos et tenter une communication radio qui échouera. Au bout de 4 jours, le faible écho radar s'estompe et avec lui tout espoir de récupérer le vaisseau. Il vit compte. Les experts de tout poil vont alors se perdre en conjectures, incriminant à tour de rôle le nouveau moteur, un suicide du Vicomte, un sabotage d'un concurrent ou même un sabotage de la part de Josip. Ce dernier sera même convoqué devant une commission pour expliquer ce qui a bien pu se passer. Mais ne pouvant ou ne voulant pas expliquer le fonctionnement de son moteur, il va rapidement passer pour le méchant de l'histoire qui a voulu se venger de son associé qui prendrait trop de lumière et le laisserait dans l'ombre à réaliser le travail ingrat. Son manque d'aisance en public va finir de convaincre l'audience de sa culpabilité. Seul un manque de preuves lui évitera une mauvaise fortune judiciaire. Dorénavant, considéré comme celui qui a fait disparaître le Vicomte, figure appréciée du grand public, Josip est maintenant jeté au banc de la société et viré de l'entreprise Saint-Christophe. Mais il ne va pas pour autant se laisser abattre et va monter sa propre entreprise. Pas pour faire la même chose qu'avant. En tout cas, pas tout à fait. Oui, il va fonder une entreprise de fabrication de vaisseaux, mais il n'en vendra aucun. Il a alors une idée fixe. Retrouver Isidore de la Malventrée. Pas par culpabilité, il n'en a jamais fait preuve, mais pour prouver au monde qu'il n'y est pour rien, en quelque sorte pour laver son honneur. Et plus prosaïquement, savoir ce qu'est devenu son moteur révolutionnaire. Il va s'investir totalement dans cette recherche que d'aucuns n'estiment vaine. Il travaillera tout seul, à la fois parce que peu de gens le portent encore en estime, et il ne fait plus guère confiance à qui que ce soit. Il va construire des sondes robotisées qui vont sillonner l'espace en dehors du système solaire. Son supercalculateur, dont il a personnellement dirigé la conception, a prédit plusieurs trajectoires probables du vagabond. Autant de sondes suivront ses trajectoires. Et comme cela ne suffisait pas, il va encore améliorer son moteur à flux subductif variable, baptisé Vestal. Moteur qui peut maintenant atteindre 40% de la vitesse de la lumière. Là aussi pour une raison bien simple. Le Vicomte a disparu depuis 2 ans. S'il se déplace encore à la dernière vitesse observée, il faut forcément un vaisseau beaucoup plus rapide pour le rattraper. Et plus le temps passe, plus la vitesse de l'engin d'interception doit grimper. Au fil du temps, on oublie Josip qui ne sort que très peu de son atelier et ne rencontre personne. Une sorte d'ermite ingénieur, supposément tombé dans la folie, et qui cherche désespérément à attraper un arc-en-ciel. Or, il est tout ce qu'il y a de plus lucide. C'est juste sa façon de voir le problème. Il a un objectif. Il va s'y atteler jusqu'à ce qu'il l'atteigne en faisant fi du monde qui se moque de lui. Le mystérieux professeur Roman et son armada de robots explorateurs. Et un jour, le 15 avril 2219, Josip Roman va embarquer à bord de son tout dernier vaisseau. Personne ne le verra partir. Coupé du monde, il ne dit à personne qu'il a retrouvé la trace du Vicomte et qu'il part à sa rescousse. Cette date, il la donnera bien plus tard. C'est à peine si le réseau de surveillance orbitale de la Terre remarquera un faible écho radar d'un vaisseau inconnu se déplaçant de vitesse jamais encore vue. Son retour sera beaucoup moins discret. 6 mois et 2 jours plus tard, un vaisseau nimbé d'un halo de plasma entrera dans le système solaire. Il sera détecté de loin et son parcours suivi de près. Un vaisseau de la défense terrienne l'accostera. Et à bord, les militaires trouveront un Josip Roman en pleine possession de ses facultés, mais totalement exténué. Comme à son habitude, il ne dira pas grand-chose sur sa mission, mais il laissera aux interrogateurs une impression de, je cite, « la manifestation d'un esprit qui a vu quelque chose, un événement qui le dépasse totalement ». Et pour que quelque chose dépasse Josip, il faut se lever tôt. On aura un peu plus tard le fin mot de l'histoire. Mais ce sera après la disparition « officielle » entre guillemets de Josip. Je dis « officielle » car vous vous en rendrez compte, c'est un peu flou. Quelques mois après son retour fracassant, il va entrer en contact avec le controversé chercheur Simon Laberta. Controversé à cause de ses théories fumeuses de mondes parallèles. Selon lui, il existe une multiplicité de mondes parallèles, un nombre faramineux en constante augmentation. Et il aurait conçu une machine pour les explorer. Machine qui, bien évidemment, n'a jamais fonctionné devant témoin, Laberta voulant garder le secret absolu sur le fonctionnement de la dite machine. Un point commun avec Roman. Ce culte du secret viscéral. Selon les confessions de Laberta, Josip l'a contacté pour utiliser sa machine pour retrouver quelque chose dans un des mondes parallèles. Dans son expédition de sauvetage pour retrouver le vicomte de la Malventrée, Josip aura été le témoin de quelque chose. Rien qu'à évoquer ce souvenir, Roman serait entré en transe tant la violence de la chose était phénoménale. Mais là, on parle pas de violence brute, pas de déferlement de haine. Une saturation d'essence, une submersion psychologique, un débordement de l'esprit. Il n'aurait pas vu au sens strict du terme. Il aurait plutôt ressenti. Aucun mot ne serait assez précis, puissant, percutant pour décrire ce qu'il a vu. La seule comparaison qui pourrait sans aucune mesure traduire ce qu'il a perçu, c'est un peu comme une fourmi qui perçoit l'existence des humains. L'humain et la fourmi occupent le même plan physique, mais cette dernière n'a pas la conscience de la différenciation de l'humain par rapport au reste du monde. C'est comme si tout d'un coup, l'univers vous chuchotait à l'oreille, et que par là même vous découvriez qu'il était conscient de sa propre existence, et qu'il pouvait se rendre compte de la vôtre en particulier. Tutoyer l'univers en tête à tête. De quoi faire tanguer le plus stoïque d'entre nous. Josip est bien conscient qu'il ne pourra plus retrouver cette épiphanie cosmique. Mais c'est plus fort que lui, il veut absolument la retrouver. Il aurait dû se faire une raison, en faire son deuil. Mais non, Josip, il l'a prouvé tout au long de sa carrière, il n'accepte pas l'impossibilité pourtant inéluctable de certaines choses. Il va donc se perdre dans toutes sortes de voies de recherche pour arriver à ses fins, sans succès. C'est ainsi qu'il va contacter Laberta et ses théories fumeuses, histoire de retrouver ce phénomène dans un monde parallèle. Mais il s'apercevra assez vite que la fameuse machine ne marche pas si bien que ça. Le jour de cette découverte, Simon Laberta manqua de peu de passer de vie à trépas. La seule fois où Josip fit preuve de violence physique, il a failli tuer le pauvre chercheur. De ses mains, dont sa fureur était à son paroxysme. Mais alors que les mains de Josip écrasaient le cou d'un Simon au visage violacé, il eut une fulgurance. Et d'un coup, il laissa tomber sa future victime pour commencer à griffonner des croquis sur le premier mur à sa portée. Josip Roman dans toute sa splendeur. Une semaine plus tard, la machine fonctionnait parfaitement. À partir de ce jour, une armée de robots explorateurs sera envoyée dans chaque monde parallèle découvert par le duo. Ce qui créera parfois des situations ubuesques, d'autant que les robots étaient dotés d'une intelligence artificielle pour le moins espiègle. Roman avait décrété que pour faire un bon explorateur, il fallait faire preuve de malice. Ah ça, ils étaient malicieux. Je vous raconterai leurs différents exploits un jour. Ce serait au cours d'une de ces explorations parallèles que Roman aurait disparu. D'après Laberta en tout cas. Sera-t-on le fin mot de cette histoire un jour? Pas sûr. Vous devez vous dire, bon, il est bien gentil avec ses histoires, mais THX 1138, il arrive quand? J'y viens. Au fil de ses recherches, Roman tombera sur le monde parallèle 587, Les sondes qui en revinrent témoignèrent des événements qui s'y sont déroulés il y a quelques années de ça. La catastrophe de Tchernobyl s'est déroulée en avril 1986, a contaminé une partie de l'Ukraine et a tué des milliers de personnes. Bilan déjà effroyable, mais qui aurait pu être dépassé par celui qui est arrivé dans ce monde parallèle numéro 587. À Tchernobyl, après la première explosion, on s'est rendu compte que le cœur du réacteur nucléaire s'était mis à fondre et à descendre dans les fondations de la centrale. Or, situé quelques mètres plus bas, il existait une énorme réserve d'eau destinée au refroidissement des réacteurs. Si jamais le réacteur fondu atteignait ce réservoir, l'explosion serait cataclysmique et contaminerait gravement tout le continent européen. Dans votre monde, on a pu évacuer l'eau avant que le matériau radioactif et surchauffé n'atteigne le fameux réservoir. Pas dans le monde parallèle numéro 587. Autant l'affaire a été occultée pendant quelques jours dans votre monde, autant chez les 587, comme je les appelle, tout le monde l'a su très vite. Les capteurs de l'Europe de l'Ouest ont sonné l'alarme très vite et les Occidentaux ont eu le temps de se protéger comme ils le pouvaient. Pour les plus orientaux, les deux Allemagnes, la Pologne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la débandade fut complète. La population aux abois migra massivement vers l'ouest, submergeant les états de la façade atlantique et de la Méditerranée. Le Royaume-Uni ferma très vite ses ports et ses aéroports. Il se raconte même que des avions de ligne furent abattus au-dessus de la Manche. C'est des États-Unis et du Japon que vint le principal des secours. Autre différence avec notre monde, 587 est nettement plus avancé dans le domaine de la robotique. C'est ainsi que vont débarquer, littéralement, puisque les grands aéroports étaient impraticables, des légions de robots autonomes. La pointe bretonne, la Vendée et la région des Landes ont vu surgir de la mer des engins de transport qui vont déverser des milliers de robots d'exploration qui vont, comme dans une migration technologique, migrer vers l'est du continent. Les Américains, et c'est constant dans les différents mondes parallèles que je connais, ont tendance à s'appuyer largement sur la technologie pour éviter de devoir engager des personnels sur le terrain. Pour ainsi dire, aucun secouriste, soldat ou spécialiste des radiations ne posera le pied en Europe. Tout se fera à distance par le biais de la fourmilière cybernétique. Peut-on leur jeter la pierre ? Ah, pas vraiment. Il y avait autant d'Européens contaminés que d'habitants aux États-Unis. Il n'existait aucun moyen de gérer ça efficacement. Le mieux à faire était de déterminer le foyer de la contamination et de le résorber. Après, serait-il peut-être envisageable d'accompagner la population en souffrance ? Mais pour le moment, toute cette troupe robotique se dirigeait vers Tchernobyl. Au fur et à mesure que les robots avançaient, le terrain était de plus en plus jonché de débris qu'on aurait pu confondre avec du charbon. Pas du tout. Il s'agissait de morceaux de graphite, ceux-là même qui constituent la structure des réacteurs de la centrale nucléaire. La radioactivité grimpait en flèche. Et le nombre des corps des malheureux également. Je vous épargnerai ici la description des symptômes et le calvaire qu'ont enduré ces pauvres âmes. Les robots, pourtant protégés en conséquence, tombaient en panne les uns après les autres. Rares sont ceux qui parvinrent au bord de ce que fut la centrale. Les premiers arrivés sur place ont été témoins d'un spectacle apocalyptique. Ce que les opérateurs américains ont vu par le biais des robots se résume en une formule. L'enfer sur Terre. Il y avait d'abord ce bruit. Un vent continu provoqué par la convection des masses d'air au-dessus du feu. Comme si la Terre elle-même hurlait douleur à cause de la brûlure. Le feu brûlait ce qu'il restait de la centrale dans un brasier verdâtre. Le ciel paraissait tomber continuellement vers le sol dans des mouvements qui faisaient penser à une avalanche de suie. 360 degrés autour du site, l'horizon ne se distinguait que par une lueur rougeoyante. Mais les spectateurs humains encore présents sur le site n'en avaient que faire. Leur seul but était de mettre un terme à ce brasier quasi maléfique. Ils se battaient tels des fourmis s'agitant autour d'un feu. Ici, certains maniaient pelles et pioches pour dégager les débris radioactifs, pour faire place aux suivants équipés de lances à incendie dérisoire. Là, D'autres s'étaient mis à creuser un tunnel pour attaquer le foyer par en bas. Autant de tentatives désespérées pour mettre un terme à tout ce cirque atomique. Et pendant ce temps-là, les hommes tombaient, encore et encore. Remplacés aussitôt par des volontaires au regard vide, comme pour se protéger mentalement du spectacle dans lequel ils vivaient un rôle à la fois principal, tellement bref. THX-1138 fut le dernier robot en état de fonctionnement à capter les images d'un ultime groupe de sapeurs qui, par je ne sais quel miracle, réussit à calmer suffisamment le brasier pour que le torrent de radiation cesse de se déverser vers les contrées voisines. Ce même THX-1138, qui s'éteindra quelques instants après avoir assisté à l'effondrement du dernier héros de Tchernobyl. Dernier maillon d'une chaîne humaine qui aura vaincu l'atome fou. Ces dernières images seront le symbole du courage et du dévouement de tous ces hommes qui ont donné leur vie pour sauver pas seulement d'autres vies, mais un continent entier. Le mot « sacrifice » est bien trop faible pour décrire ce qui s'est passé ce 28 avril 1986 dans le monde 587. THX-1138 sera récupéré quelques années plus tard et exposé dans un mausolée dédié aux victimes de cette catastrophe. Il sera remis en ordre de fonctionnement et reprogrammé pour déambuler dans ce lieu mémoriel. Et me voilà à essayer de le rattraper pour le ramener dans ce lieu de mémoire après l'avoir chapardé à ces foutus pilleurs de tombes qui se sont mis en tête de voler les objets les plus marquants des différents mondes parallèles. Le programmateur, un poil poétique, a voulu que le robot soit timide pour ne pas faire peur aux visiteurs et forcer à une certaine empathie. Ce qui ne va pas me faciliter la tâche, mais bon, c'est le boulot qui veut ça.